l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Cahors, 92.5.
Et c'est un plaisir de vous retrouver chaque jour entre 12h et 13h dans ce Présence Midi. On le dit, mais vous n'êtes pas forcé de le croire, mais vraiment, je vous garantis que c'est un bonheur de se retrouver grâce à la magie des ondes de Radio Présence. Alors, au sommaire, dans quelques instants, on aura vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est le cardinal Bustillo qui était dans nos murs la semaine dernière, puisqu'il était à la conférence des évêques de France, et il était au micro de Anne-Rose Jankovic. Je vous propose donc d'écouter d'ici quelques instants, c'est notre invité exceptionnel dans ce Présence Midi. Et puis on parlera d'un déménagement, celui du comité de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées qui part de ses locaux et qui est parti d'ailleurs de la rue Georges Lassalle pour partir sur la rue des Gonesses à Tarbes. Nous aurons leur présidente qui nous expliquera les raisons de ce déménagement et exactement donc aussi l'adresse et des espaces Ligue qui ont fleuri un peu partout dans le département des Hautes-Pyrénées. Vous savez qu'il y a un comité départemental dans chaque département. Alors si vous êtes touché par le cancer, si vous avez des questions sur ça, si vous êtes un aidant, et bien surtout n'oubliez pas d'aller franchir les portes de vos comités départementaux. Ils sont là pour vous accueillir et aussi vous apporter des aides. Et on salue bien sûr tous ces bénévoles qui se cachent derrière cette Ligue contre le cancer. Et puis ensuite, on parlera de guerre grâce à une photographe de guerre. C'est l'invité de Mathias Terrier dans le magazine de Passage de Lourdes, on parlera de dialogue interreligieux, on en parlera d'ailleurs aussi avec le cardinal Bustillo. Mais pour l'instant, allez, un peu de musique, et puis on retrouve son éminence d'ici quelques instants.
Moi je la porte sur mon front.
C'est la très belle voix de Véronique Sanson à l'instant avec Doux dehors, fou dedans. C'est le titre de cette chanson et on va retrouver le cardinal Bustillo tout de suite qui est au micro d'Anne-Rose Jankovic.
Présence à Moissac 93.3.
Bonjour cardinal François Bustillo.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir au micro et dans les studios de Radio Présence ici à Lourdes. Vous êtes présent dans la cité mariale à l'occasion de l'assemblée plénière des évêques de France ici au sanctuaire. On va aborder bien sûr les thèmes que vous abordez cette semaine avec vos confrères évêques, vos frères évêques. Et puis on va parler de beaucoup de choses, des églises diocésaines, de la communion, du patrimoine religieux aussi. On va vraiment essayer de balayer pas mal de sujets. On va commencer donc par cette assemblée plénière. Au tout début de l'assemblée, vous avez reçu avec tous vos frères évêques le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, qui est le chef spirituel de l'église orthodoxe de Constantinople. Il vous a donné, offert, pour reprendre les termes de Monseigneur Mika il y a quelques minutes au micro de Radio Présence, il vous a donc offert un discours dans lequel il n'a pas mâché ses mots. Il a dressé un tableau du monde réaliste, certainement, mais quand même un peu rude, dans lequel il a quand même pourtant invité les chrétiens à être porteurs d'espérance. Je voudrais commencer par le citer. Il vous a dit ceci notamment. Nous le savons, la crise que traverse notre monde ne se limite pas aux tensions politiques, aux guerres ou aux déséquilibres économiques. Elle plonge plus profondément dans une blessure spirituelle. L'humanité a oublié son âme. Nous avons perdu le sens du sacré et avec lui le sens de la fraternité. Comment ces mots du patriarche ont résonné dans votre cœur d'abord de franciscain, d'évêque, de cardinal? Est-ce que comme le patriarche Bartholomée, vous pensez que l'humanité a oublié son âme?
Moi, j'ai senti son discours d'une manière très, très belle et très directe. Je trouvais que dans son discours, il y avait de la provocation au sens étymologique. Donc, il nous rappelle notre vocation chrétienne. Et il a parlé d'une manière extrêmement libre, extrêmement directe. Il a parlé à ses frères évêques et catholiques. Et moi, j'ai reçu son message d'une manière très, très belle, parce que je me suis dit, mais quelle liberté cet homme. Il a 85 ans, il a une lucidité extraordinaire, et il est capable de nous dire, et de dire à la société française et au monde, attention à notre âme, attention au sacré. Parce qu'effectivement, il me semble que nous vivons un déficit de spiritualité. Et paradoxalement, beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes cherchent une spiritualité. Et ils vont partir dans des lieux exotiques. Et nous avons la chance, nous avons aussi la force de pouvoir dire à notre société, n'oublions pas qui sommes-nous et d'où venons-nous. Nous avons reçu par le baptême le sacré en nous, il est en nous. Parfois on l'oublie, parfois on est trop à l'extérieur, par les réseaux sociaux ou autres, et on oublie notre âme, notre vérité.
Donc on est en quête de spiritualité, mais on a oublié ou on ne sait plus que c'est dans le cœur du Christ qu'on peut trouver cette spiritualité.
Voilà, on est en quête de spiritualité parce qu'on sent que le monde est violent, on sent que la politique ne nous rassure plus, que l'économie provoque des incertitudes, que notre société est extrêmement violente. Donc il y a une quête de spiritualité. Mais on la trouve ou on va la trouver ailleurs, et dans des domaines exotiques et lointains. Et finalement, peut-être que pour beaucoup de nos contemporains, il nous faudrait un pèlerinage, si j'ose dire, vers l'intérieur, vers notre baptême, vers nos églises. C'est moins exotique peut-être que certaines traditions spirituelles, mais c'est là qu'on va trouver notre identité. Notre identité spirituelle, notre identité chrétienne et notre vérité.
Mais donc c'est une quête personnelle, intime.
Souvent, il y a une quête personnelle, mais il y a aussi une quête sociale. On sent que dans notre société française, il y a beaucoup de personnes qui sont en mouvement. Alors, ils sont déçus d'une certaine vie sociale, d'une certaine vie relationnelle, et ils cherchent une âme, ils cherchent la foi. Et nous voyons aussi dans le domaine politique et dans le domaine social, dans le domaine médiatique, combien de personnes se posent des questions sur la foi. À une époque, la foi, la religion, la spiritualité, les curés, c'était du domaine du mépris presque et de l'abandon. Aujourd'hui, on revient vers certains prêtres, on revient vers la foi, on revient vers l'Église. Mais on le voit avec les catéchumènes, on le voit avec les néophytes. Oui. On voit que beaucoup de personnes, ils nous disent à nous, nous on a été baptisés, après on a tout abandonné, moi je n'ai pas fait la communion, moi je n'ai pas fait la confirmation, je cherche, je voudrais rejoindre la famille, mais avec mes questions, avec mes pourquoi, et dans une atmosphère aussi de confiance et d'échange.
Et ces catéchumènes que vous mentionnez, on se rend compte que parfois, même peut-être souvent, ils arrivent, c'est pas forcément parce qu'on est allé les chercher, d'ailleurs on sait pas forcément très bien comment ils sont arrivés là, mais ils frappent à la
c'est
porte.
C'est là qu'on voit que l'esprit est à l'œuvre. Oui. Et après, moi je me rappelle, lors de ma première assemblée plénière avec les évêques en 2021, octobre 2021, oui. avec la crise des abus. C'était catastrophique pour l'Église de France. Catastrophique aussi pour nous, les évêques. Et là, sans aucune stratégie, sans aucune tactique, de jeunes et des adultes frappent à la porte de l'Église. Ils disent, moi je viens, moi je cherche, je ne suis pas baptisé, je voudrais être baptisé, ou je n'ai pas fait ma communion. Et moi je me dis, c'est là qu'on voit quel esprit travaille nos esprits. Et que l'Église catholique n'est pas une question de tactique, de politique, de stratégie, c'est une question de confiance. Et là, quand ces jeunes frappent à notre porte, là, nous devons leur offrir ce que nous avons de meilleur. C'est ça qui est fascinant dans notre mission.
Vous pensez que le travail de vérité que l'Église a fait après la SIAZ, après ces révélations qui ont été très douloureuses, on l'entend bien, vous le redites, vous croyez que ce travail de vérité, finalement, il a aussi envoyé le signal que l'Église pouvait être vraie, pouvait travailler sur elle-même, pouvait faire quelque chose.
Un travail de vérité
oui.
est toujours une quête d'authenticité.
Oui.
Et à la fin, quand on est dans la vérité et dans l'authenticité, on est dans la liberté. Et souvent, on a manqué de liberté parce qu'il y a une forme de protectionnisme, il y a une forme de conservation. Et finalement, quand on est libre, bien, on est tel qu'on est. Et là, le jeune et les adultes qui frappent à notre porte, ils ne veulent pas des réponses automatiques ou strictement doctrinales. Ils veulent être rassurés, ils veulent être éclairés, ils veulent être aussi orientés dans leur vie. Et quand on regarde l'évangile, n'oublions pas Matthieu 5, le discours de la montagne, la première fois que Jésus parle, c'est pour dire heureux, heureux, heureux. C'est un chemin de bonheur. Et quand on arrive à Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif, j'étais malade. Jésus nous dit, voilà, que votre foi passe par la pratique. Et là, je pense que notre société, est un peu malheureuse, un peu déprimée, a besoin de retrouver l'idéal magnifique de l'Évangile, où il y a des paroles, mais il y a aussi des actes. Et c'est dans le mariage entre les paroles et les actes qu'on va donner un sens à notre société.
Alors, des actes, il y en a beaucoup à poser. C'est ce qu'on a compris aussi en matière d'œcuménisme. Alors, j'y reviens, puisque on avait démarré avec ça. Et pour finir sur ce thème de l'œcuménisme, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour en revenir donc à la prise de parole du patriarche Bartholomée Ier, donc, qui a eu lieu en tout début de l'Assemblée plénière, c'était un peu l'occasion de revenir sur le sens de l'œcuménisme. Parce qu'au fond, est-ce qu'on n'a pas un petit peu considéré, depuis la rencontre à Assise en octobre 86, que l'œcuménisme, finalement, c'était le dialogue entre des institutions, que c'était quelque chose de diplomatique, voire de politique. Au fond, à quel moment on met notre cœur dans l'œcuménisme ?
Oui, vous avez raison. Souvent, on a vu un côté institutionnel,
oui.
Politique, presque tactique, de la part de grandes religions, mais on n'a pas vu la dimension importante de l'âme. Et là, je reviens à ce que le patriarche nous a dit. L'âme. Quand on est dans le dialogue œcuménique ou interreligieux, ce n'est pas juste pour nous entendre d'un point de vue tactique. On est là pour essayer d'écouter ce que l'autre vit dans sa foi. Et moi, je trouvais très riche, en tout cas pour moi personnellement aussi, parce que nous sommes habitués, entre catholiques, à nous écouter, à nous conseiller, à nous orienter. On reste un peu dans notre écosystème naturel.
Oui.
Il est juste d'écouter la voix de quelqu'un d'autre qui n'est pas notre ennemi, mais quelqu'un d'autre qui a la foi en Jésus-Christ. et qui va nous sortir des paroles. Il va nous sortir aussi des idées et des orientations qui sont différentes, mais qui nous font du bien.
Donc ça veut dire que l'œcuménisme, c'est pas seulement de ne pas se faire la guerre ou de ne pas se taper dessus, c'est vraiment d'entrelacer nos âmes, quoi.
Mais c'est de se connaître, c'est de se comprendre et c'est de mettre en valeur ce qui nous unit. Parce que souvent, quand on se retrouve dans le domaine interreligieux ou œcuménique, souvent on dit, nous, par rapport aux protestants, voilà ce qui nous différencie. Par rapport aux orthodoxes, par rapport aux musulmans, par rapport aux juifs. Et on va dire les différences. Elles sont tout à fait légitimes. Mais c'est dans la différence et dans les différences qu'on va se retrouver pour se dire, on a quelque chose en commun. On croit en Dieu. Et dans le domaine interreligieux, on a quelque chose en commun. On croit en Jésus-Christ. Dans le domaine œcuménique. Et je trouvais merveilleux de pouvoir célébrer ce qui nous unit.
Au fond, on s'encourage à être disciples missionnaires. On parle souvent des périphéries, donc de ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas du tout la foi. Presque comme si c'était plus facile, finalement, d'engager un dialogue avec les personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, plutôt qu'avec des personnes qui croient, mais pas tout à fait comme nous.
Voilà, nous devons... le domaine du dialogue, dialogos, c'est la parole entre deux réalités. Donc, dans le domaine œcuménique, interreligieux, mais aussi avec les non-croyants ou avec les lointains. Il ne faut pas les oublier. Les lointains faisant partie de notre famille parce qu'ils ont été baptisés, mais ils sont restés loin. Je pense qu'il ne faut pas oublier ce dialogue différent selon les personnes et les situations. Un catholique, un baptisé doit être toujours prêt à dialoguer, prêt à rencontrer. Parce que nous avons un patrimoine riche. Notre mission n'est pas de dominer ou de manipuler. Notre mission est de rencontrer et de donner ce que nous avons de meilleur et peut-être de sortir ce que l'autre a de meilleur.
Un grand merci à vous, Éminence. Merci d'être passé dans les studios de Radio Présence à Lourdes, alors que vous êtes ici au sanctuaire de Lourdes avec tous vos frères évêques en assemblée plénière. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu.
Merci beaucoup et bonne continuation.
Et le cardinal Bustillo était au micro d'Anne-Rose Jankovic. Voilà, invité exceptionnel. Notre invité exceptionnel, c'est la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer. On va parler de déménagement.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5.
Annette Cuc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer qu'on reçoit régulièrement sur cette antenne parce que vous avez toujours une actualité. Et votre actualité aujourd'hui, c'est un déménagement. Vous avez quitté les anciens locaux de la rue Georges Lassalle pour aller sur de nouveaux locaux au 27 rue de Gonesse à Tarbes. Pourquoi ce changement, Annette ?
Alors, ce changement, il était prévu de longue date parce que nous étions d'abord à l'étroit dans le précédent logement et surtout, nous ne pouvions pas accueillir les soins de support qui se faisaient jusqu'à présent dans une maison prêtée par le maire de Loueil, M. Laborde, que je remercie. Voilà, et donc il nous fallait absolument un lieu où nous pouvions accueillir les malades et les aidants pour venir faire nos soins de support sur place.
Et alors pour les gens qui écouteraient, bien sûr, les soins de support, en deux mots, c'est quoi un soin de support ?
Alors les soins de support sont des soins de bien-être, de confort, de relaxation, voilà, c'est du soutien psychologique, des conseils diététiques, tout ce qu'on peut faire autour de la maladie sans être des traitements, du traitement de fond de la maladie, hein, tout ce qui peut soulager un peu tous les maux. Hein, autour de la maladie. Alors, on a aussi de la socio-esthétique, des cours de yoga, de l'activité physique adaptée, de la sophrologie, donc je ne peux pas tout citer.
Tout citer,
voilà, c'est pour donner une idée de ces soins, donc pour prendre en charge le bien-être des malades.
Et donc, ce nouveau local va pouvoir à la fois regrouper toutes ces activités que vous proposez, ces soins de support, et bien sûr, le volet information.
Oui, bien sûr, il y a l'information. Donc, on aura vraiment une zone d'accueil hein, où il y aura quelqu'un en permanence, soit notre secrétaire d'accueil, soit des bénévoles. Et au même niveau, dans tous nos rez-de-chaussée, consacré à l'accueil et aux soins de support. Donc nous avons tout aménagé pour que ce rez-de-chaussée soit vraiment l'accueil des personnes malades et de leurs aidants.
Et de leurs aidants, parce que ça aussi c'est important, le côté aidant, oui. Bien sûr, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est malade, on est souvent même plus inquiet, je crois, que la personne qui elle-même est malade.
Oui, tout à fait. Donc, on ne les oublie pas, hein, pour tous ces soins de support, notamment pour tout ce qui est relaxation, le soutien psychologique et la sophrologie, par exemple, font partie des soins de support qui sont le plus demandés, oui, pour les aidants. Et voilà, donc c'est très important pour nous aussi de prendre en charge ces personnes-là qui souffrent pendant la maladie de leurs proches.
Il y a un mois à peu près, hein, on s'était vu en tout début du mois d'octobre, puisqu'il y avait la grande opération Octobre Rose. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui ont marché, tous les gens qui ont organisé, hein, des animations autour d'Octobre Rose et qui sont en train petit à petit de vous remettre des chèques, bien sûr, il y a une partie de l'argent qui est consacrée à la recherche, mais il y a une partie de l'argent qui reste dans le département pour ces fameux soins de support que vous financez, hein.
Oui, tout à fait. La recherche, donc, j'ai l'habitude de le dire parce que c'est à peu près ça, c'est un tiers de notre budget. Hein, donc, il y a à peu près 150 000 euros qui sont attribués à la recherche, de la recherche nationale et régionale. Et voilà, donc, mais après, tout le reste, j'allais dire, bon, bien sûr, il y a une partie pour le fonctionnement, mais le reste, pour nous, c'est très important. On l'a pas mal développé ces dernières années, c'est l'aide aux malades. Alors, ça va être des aides financières, mais aussi des aides, donc, sous forme de soins de support qu'on, ouais, propose aux malades.
Combien vient de l'annoncer? Les soins de support sont, oui, vraiment importants. Et donc, ben, à tous ces gens qui ont participé à ces Octobre Roses ou qui font des dons, eh bien, tout ne part pas à Paris, entre parenthèses, pour la recherche. Mais effectivement, ici, dans le département, eh bien, on aide les gens, vous venez de le dire, par des aides financières. Mais c'est un peu étonnant, les aides financières. La Ligue aide une personne qui se retrouve en difficulté financière, c'est ça?
Oui, voilà. En fait, au moment de la maladie, il peut y avoir certaines personnes qui perdent complètement leur travail, ah oui, hein, parce qu'ils sont en privé, que tout s'arrête. Hein, et donc, il y a quelques aides, mais ce n'est pas suffisant pour absorber un loyer, une famille, éventuellement. Donc, il y a quand même des difficultés. Donc, on aide, alors on ne donne pas un salaire, mais on aide sous forme de paiement de facture, règlement de facture, une facture EDF, de chauffage, éventuellement, un reste à charge dans des prises en charge, ah oui, d'assistance, voilà, des frais d'obsèques, malheureusement ça peut arriver aussi d'aider, hein, pour des frais d'obsèques quand on n'y arrive pas, parce que c'est quand même très onéreux. Voilà, on essaie d'aider au mieux grâce à notre commission sociale. Avec cette commission sociale, elle est composée de médecins, d'une assistante sociale et du trésorier. Et elle se réunit tous les 15 jours environ et on étudie des dossiers. Ils étudient des dossiers qui sont préparés par l'assistante sociale du patient.
Du patient,
voilà,
d'accord.
C'est pas le patient, avec le patient, bien sûr, mais c'est pas directement des dossiers qui nous sont envoyés par les patients.
D'accord.
Voilà. Bon, non, voilà.
Alors, Annette Cuc, depuis votre arrivée à la présidence, il y a à peu près 5 ans maintenant, hein, 5-6 ans que vous êtes présidente du comité départemental de la Ligue contre le cancer pour les Hautes-Pyrénées, vous avez fait bouger beaucoup de choses, puisque vous avez créé des espaces Ligue. En deux mots, hein, un espace Ligue, c'est quoi?
Alors, un espace Ligue, c'est une antenne aussi, on appelait ça. Oui. C'est-à-dire, c'est un espace qui va être éloigné de notre siège social, là, qui va être 27, qui est 27 rue de Gonesse, à Tarbes, et pour pouvoir aller au plus près des malades qui n'auront pas besoin de faire de la route pour venir bénéficier de nos soins de support. Alors donc, on a ciblé un peu les villes qui sont éloignées de Tarbes. La première antenne Espace Ligue qui a été créée, ça, Ligue-Bigorre-Maubourguet, dans le nord du département. Les deuxièmes, parce que ça s'est fait en parallèle, c'était Lourdes, qui est devenue Argelès depuis le mois dernier, dernière de Bigorre, et nous avons dans les dans les starting blocks, j'allais dire, on espère l'ouvrir avant la fin de l'année, un espace ligue à Saint-Laurent-de-Nest pour couvrir tout ce secteur de la maison et de la veste.
Voilà, venir.
Donc ça fera 4 espaces ligue, en plus de notre espace, bien sûr, 27 rue de Gonesse.
Qui est le centre névralgique du comité, ouais. Effectivement, le siège social, 27 rue de Gonesse. Voilà la nouvelle adresse, est 27 rue de Gonesse. Bien sûr, le numéro de téléphone ne change pas, c'est toujours le même, le mail non plus. Il n'y a vraiment que l'adresse pour accueillir mieux les gens, dans la discrétion, ouais. Aussi, parce que peut-être que votre ancien local était pour ça un peu exigu.
Oui, c'est exigu et surtout mal placé dans une rue qui est pas abandonnée, mais où il y a très peu de commerce, très peu de passages. Et donc là, par contre, on se retrouve dans une zone qui est très passante, puisque c'est à côté du marché Brouban et pas loin de la polyclinique de Lormont. Pour nous, c'est important, c'est un peu le hasard qui fait bien les choses. Donc voilà, on est content de se retrouver à proximité de la polyclinique de Lormont qui nous envoie déjà pas mal de personnes pour suivre les soins de support.
Super.
Voilà, bon, on est très content d'être dans ce nouveau local, hein, qui est spacieux. Et puis bon, aussi, on n'oublie pas le personnel qui travaille tout le temps et les bénévoles qui nous aident. Donc, et j'espère que j'aurai aussi un groupe de bénévoles qui viendra faire des permanences. On va essayer de mettre en place ça en 2026 pour que régulièrement aussi des bénévoles formés puissent accueillir en permanence les gens. Alors, n'hésitez pas à pousser notre porte. 27 rue de Gonesse. Venez voir notre nouvel espace.
Voilà, venez, et puis venez bien sûr chercher de l'information, venez chercher un sourire, du réconfort aussi, de l'information vraiment juste, et puis pour certains malheureusement aussi des aides. Merci beaucoup Annette Cuquet, je vous rappelle que vous êtes la présidente de ce comité départemental de la Ligue contre le cancer. L'actualité de votre comité, c'est ce déménagement de la rue Georges Lassalle, donc vers la rue de Gonesse, à Tarbes, 27 rue de Gonesse.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à Madame Cuquet. Au revoir.
Au revoir.
Un ange par-ci, un ange par-là, un diable aussi quand tu es là. Rien ne va mieux qu'ici-bas. On change de vie, on change de moi. De jour aussi, quand on se voit. Rien ne va mieux qu'ici-bas. Autant
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voix, tout simplement. Isabelle Boulay à l'instant sur Présence avec Ici-Bas. Nous allons poursuivre avec le magazine de Passage à Lourdes et nous retrouvons pour cela Mathias Terrier. On va parler aujourd'hui d'interreligieux avec lui.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Présence
de Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre d'un pèlerinage pour le dialogue islamo-chrétien, nous recevons dans cette émission de Passage à Lourdes, Cécile Massy. Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Pour résumer, mais peut-être en quatre éléments, votre vie, c'est commerce international, projet humanitaire, photographie et puis dialogue islamo-chrétien. Alors, ce que se demande nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent par l'image, par les réseaux, c'est comment va-t-on pouvoir faire un lien entre tout ça ? Eh bien, c'est votre vie. Depuis que vous avez quitté, alors vous êtes revenu, mais votre Bordeaux natal, vous êtes native de Bordeaux. Et puis, tout ce travail autour d'un projet professionnel, commerce international, finalement un an uniquement d'expérience dans ce domaine. Et puis, vous voici parti vers des contrées aussi lointaines que la Syrie, le Liban, l'Irak. Et on se plonge immédiatement dans ce qui va sans doute être pour vous un tournant. C'est la plongée dans la vie monastique, dans un monastère en Syrie, que vous découvrez au cours de 14 mois de présence là-bas.
18 mois.
18 mois. Syrie,
oui. En 2010, 2011.
Ce monastère s'appelle Der Marmoussa.
Oui.
Qu'est-ce que vous y découvrez ?
Alors, j'y découvre une communauté monastique.
Hommes et femmes.
Hommes, femmes, mixtes, œcuméniques, donc accueillant des postulants de pouvant arriver de toutes les églises. J'y viens pour appuyer le père Paolo Dall'Olio, qui est fondateur de cette communauté et qui a beaucoup de projets pour la société civile syrienne. Donc, je suis mandatée par la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, pour venir l'appuyer. Et puis, rien ne va se passer comme prévu. On ne va pas avoir l'autorisation de faire les projets que nous voulions dans la Syrie de 2010, de Bachar al-Assad. Donc, on va s'adapter. Et j'ai découvert surtout leur quotidien. Donc, ce monastère qui a basé sa règle sur la prière, le travail manuel et l'hospitalité sacrée.
C'est-à-dire le dialogue permanent entre les musulmans et les chrétiens.
Oui, notamment. Par hospitalité sacrée, il y a la notion du dialogue interreligieux, d'accueillir, d'être au milieu dans ce pays à majorité musulmane et d'être dans l'accueil gratuit, inconditionnel, un mot que j'ai dit, voilà, l'hospitalité inconditionnelle. Et donc, je vais découvrir tous ces visiteurs. À l'époque, avant le début de la Révolution, ce sont 25 000 personnes qui viennent à Marmoussa par an, des visiteurs, des touristes internationaux, des jeunes qui vont d'Europe à Jérusalem à pied ou à vélo, sans trop le dire, et des Syriens, notamment les vendredis, jour férié en Syrie, qui vont venir pique-niquer en bas de la vallée. Alors, il faut savoir que Marmoussa, c'est dans le désert syrien, c'est entre Damas et Homs. C'est un monastère du 10e siècle, 11e pour les fresques de l'église. Donc, on chemine, on avance. Il faut grimper 360 marches pour accéder au monastère. Troglodyte, dans cette vallée, à 1200 mètres d'altitude. Donc, il y en a qui restent pique-niquer en bas. Et il y en a qui montent. Et ça, ce sont des rencontres incroyables de jeunes syriens, chrétiens, musulmans, différentes confessions, qui se retrouvent sur cette terrasse du monastère et qui discutent, voire même qui prient ensemble.
Donc, ce que vous découvrez, c'est un dialogue possible, constructif, au plan humain, au plan spirituel, peut-être plus encore, là, qui se vit dans un quotidien, alors même qu'on pense que ça n'est pas possible ou improbable.
Oui, il se vit dans le quotidien, dans le vivre ensemble, dans partager un repas ensemble, dans être accueilli, découvrir les fresques de l'église comme un patrimoine historique commun. Et ensuite, effectivement, il y a la volonté du Père Paolo d'aller encore plus loin et de créer une théologie du dialogue et de s'acculturer en tant qu'Italien déjà et puis en tant que chrétien pour mieux créer un dialogue avec l'islam. C'est adopter les mots et l'image de l'islam pour pouvoir dialoguer en profondeur. Oui.
Le Père Paolo, qu'est-il devenu ?
Le Père Paolo a été d'abord expulsé de Syrie en 2012 par le régime en place, parce qu'il prenait le dialogue, parce qu'il prenait position pour la démocratie. Donc, il a été expulsé et il est revenu par la Turquie dans les zones libérées. Et ensuite, il est allé à Raqqa, qui était devenue en 2013 la capitale de l'État islamique. Et donc, poussant son désir de dialogue et sa foi dans le dialogue avec l'autre à son paroxysme, il est allé discuter avec le responsable de Daesh à Raqqa. Et il a disparu et le 29 juillet 2013. Et on ne sait pas ce qu'il est advenu de lui.
Ça n'a pas empêché cette communauté de continuer, d'attirer non seulement tous ceux qui veulent dialoguer, mais des hommes et des femmes qui veulent vivre dans ce monastère, une vie monastique.
Oui, alors ça a été difficile, ils ont vécu cette guerre civile, ils l'ont traversée. La communauté est composée de Syriens et de non-Syriens, donc Libanais, Allemands, Suisses-Allemands. Ils ont quitté la Syrie en 2012, c'était trop dangereux pour les étrangers. Ils sont partis dans un autre monastère qui avait été confié à la communauté. Donc déjà, il y a eu cette traversée du désert, ils ont été divisés. Et
ils sont revenus tout de même.
Et au fur et à mesure, à partir de 2018, ils ont pu revenir. Ils ont tenu bon et ils sont passés d'une communauté de l'accueil à une vie plus contemplative, mais de prière. Et ils ont continué à œuvrer à travers cette guerre civile qui a eu des conséquences énormes sur la population syrienne. À œuvrer pour les projets pour la société civile. Donc, ils ont créé une école qui a aujourd'hui 120 élèves, dont 5 chrétiens. Ils ont aidé des jeunes à aller étudier à l'étranger, à avoir des bourses, et d'autres à avoir des soins médicaux. Donc, ils sont 7 actuellement, hein, moines et moniales, 2 novices aujourd'hui en plus. Mais voilà, ils ont œuvré. Et à partir de 2018-2019, ils ont pu commencer à retourner à Marmoussa. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais en train d'œuvrer au dialogue, parce que maintenant, au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad, il y a tout à reconstruire, et ils essayent d'accompagner cette reconstruction à travers le dialogue interreligieux, toujours et encore. Et ils ont pu, cet été notamment, organiser une semaine de rencontres, dialogue islamo-chrétien, mais de réconciliation. Et des Syriens ont convergé de toute la Syrie pour... Enfin, il y avait 80 personnes, mais j'avais la chance d'y être, de toutes les religions. Et c'est parce que Marmoussa est un symbole de dialogue depuis 30 ans que les Syriens ont convergé pour partager leur traumatisme, leur vécu différent, confronter leur vécu, ce qui est très compliqué, parce qu'ils n'ont pas eu du tout le même vécu de ces 15 dernières années.
Dans la deuxième partie de cette émission, si vous le voulez, nous aborderons tout ce qui concerne dans votre parcours l'humanitaire. Vous accompagnez des projets humanitaires et puis vous êtes photographe. Et donc, vous nous direz aussi comment vous avez pu avancer dans ce domaine de la photographie. Mais pour continuer sur cette question du dialogue entre chrétiens et musulmans, vous avez conscience que ce que vous dites paraît hautement impossible pour la plupart de ceux qui nous écoutent, qui disent « mais c'est pas possible de dialoguer ». De quoi on parle ? Dialoguer avec des gens qui font disparaître le fondateur de la communauté ? Dialoguer avec qui ? Comment ? C'est naïf, c'est sans issue. Vous l'entendez ça, sans doute ? Ou alors peut-être qu'on ne vous le dit pas ?
Alors en tout cas, je suis consciente que ce soit un sujet sensible, mais je suis aussi consciente qu'il y a énormément à faire pour ça. D'abord, Daesh n'est pas l'islam, n'est pas représentatif de ce qu'est l'islam majoritaire. Dialoguer avec tous, oui. Voir l'humanité en l'autre, quoi qu'il arrive, ça c'est ce que le père Jacques Mourad, le cofondateur de la communauté, a écrit dans un livre qui s'appelle « Un moine en otage ». J'ai vécu aux côtés de la communauté de Marmoussa, j'ai vu leur conviction profonde de l'importance du dialogue, mais pas l'importance pour survivre au milieu d'un, en tant que minorité chrétienne. Je les ai vus convaincus de la richesse qu'est le dialogue, de la richesse que sont les chrétiens pour les musulmans et que sont les musulmans pour les chrétiens. De se cheminer ensemble, comprendre plus profondément sa religion à travers celle de l'autre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont en commun. Ça, j'ai appris tout ça et je me suis dit, c'est un site qui est d'abord très beau. Les premiers mois à Marmoussa, je me suis rapidement dit, il faut que je témoigne de ça. Quand je rentre en Europe, il faudra que je puisse en témoigner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de plus en plus de photos dans un site qui s'y prête déjà bien. Et c'est là que je me suis décidée à...
Et en quoi ça approfondit votre propre foi chrétienne, vous ? Qu'est-ce que vous découvrez dans ce dialogue avec le monde musulman et les musulmans, qui nourrit votre propre foi?
D'abord parce que le monastère de Marmoussa, c'est 7 moines moniales, mais c'est toute une équipe autour qui est laïque, qui est chrétienne et musulmane. Donc il y a des musulmans qui ont œuvré à toute la construction du bâtiment. En 2014...
Donc déjà, l'œuvre est un
dialogue. L'œuvre est un dialogue.
Ouais,
exactement.
D'accord.
Et en 2013-2014, il y a eu des conflits dans la vallée, au pied de Marmoussa. Et à un moment, ça a été vraiment très compliqué. La communauté a décidé d'aller dans le village de Nebek, qui est à 15 km de là.
Quand vous dites très compliqué, c'était dangereux.
C'est-à-dire qu'il y a des missiles qui passaient au-dessus du monastère, quoi. Ils sont partis 15 jours, une semaine ou 15 jours, vraiment. Pas très longtemps, mais là, c'était trop, trop risqué pour rester. Il y en a un qui est resté pour éviter les pillages. C'est un musulman qui a protégé Marmoussa pendant 2 semaines. Donc, et c'était l'un des travailleurs qui a œuvré à la construction. Il s'appelle Abou Raed. Ça, ce sont des détails que concrets de ce qu'a été le dialogue islamo-chrétien. Quand le père Paolo s'est fait expulser de Syrie par le gouvernement, il y a une page Facebook qui a été créée. En 2 jours, il avait 2000 membres de ce groupe, principalement musulmans, syriens. C'est le fruit de sa foi profonde. Mais il a beaucoup dérangé. Hein. Il a beaucoup dérangé même l'église syrienne. C'est pas évident.
Mais si on vous comprend bien, ce dialogue se fait à travers des œuvres, à travers la vie commune, et puis la prière, c'est possible de prier ensemble.
En tout cas, de faire un espace à la prière de l'autre, tout à fait. L'église de Marmoussa, les visiteurs, certains savent, certains ne savent pas, et disent voilà, on est musulmans, c'est l'heure de la prière, on voudrait faire la prière, où est-ce qu'on peut aller? On leur dit allez dans l'église. Alors même des Syriens, c'est pas commun en Syrie quand même, donc ils sont interloqués. Et j'ai de mes photos que je suis heureuse d'avoir pu prendre, qui en 2018, pendant la Semaine Sainte, une partie de la communauté se recueille dans l'église et à côté, on y voit un musulman en train de faire sa prière. Ils sont côte à côte dans cette église au milieu de la Syrie en 2018, 7 ans après le début de la révolution.
Nous nous arrêtons quelques instants, si vous le voulez. On continue ce dialogue avec vous, Cécile Massy. On continue le dialogue en particulier sur les projets humanitaires que vous avez pu accompagner. Et puis nous parlerons de photographie, puisque vous permettez cette transition. Alors on se dit à tout de suite.
À tout de suite.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Merci Cécile Massy de passer par nos studios. Alors vous êtes en pèlerinage à Lourdes.
Oui.
Pèlerinage islamo-chrétien.
Exactement.
Donc c'est dire combien vous êtes plongé dans la question du dialogue avec le monde musulman, mais les musulmans, des personnes que vous avez en particulier côtoyées et dont vous avez découvert la foi dans ce monastère dont vous nous avez parlé, que vous découvrez alors que vous êtes en coopération.
Oui,
nous sommes dans les années
2010-11.
Oui. Vous vous rendez en Syrie, dans un monastère qui s'appelle Der Marmoussa, et vous y découvrez combien le dialogue entre l'islam et le monde chrétien peut donner naissance à des œuvres extrêmement positives, des lieux d'éducation, des lieux de transmission, des lieux de prière où on prie ensemble. C'est tout ça qui vous façonne pour vous emmener vers la photographie. Alors que vous avez fait des études dans le domaine du commerce international.
Oui.
Donc je pense que vous avez, à travers ces études, d'abord appris à compter, à manager, à négocier, à vendre.
Oui.
Et vous voici photographe.
Oui, c'est...
Vous avez fui cet univers matériel.
Voilà, j'ai...
Du business.
Disons que j'ai pas eu de vocation en tant qu'étudiante, donc j'ai pris les langues, l'anglais et l'espagnol, très basique, pour pouvoir m'ouvrir à d'autres cultures. Et puis, ne voulant pas enseigner, j'ai adossé le commerce international pour essayer de me créer des opportunités d'emploi. Et j'ai été très disciplinée. On m'a conseillé d'avoir une première expérience avant de partir. Je voulais partir. Et donc j'ai trouvé ce premier emploi. Oui, mais après ça a vite bifurqué sur la Syrie. Et c'est là que j'ai voulu faire plus, enfin témoigner, pouvoir témoigner. Donc je me suis mis à prendre des photos. Et puis au fil des années, après je suis repartie dans l'humanitaire pur, au Liban, au Nigeria. Et puis en 2014-2015, il y a des gens qui m'ont dit alors en Syrie la communauté ils sont tous morts. Il va falloir de nouveau. C'est pas possible que les gens pensent ça. Il faut justement dire qu'ils y sont et qu'ils continuent à croire au dialogue, à œuvrer, à prier.
Donc vous voici photoreporter.
Et donc voilà, photoreporter. J'ai pas pu aller en Syrie, mais je suis allée en Irak voir une partie de la communauté. J'ai suivi ceux qui étaient exilés à travers différents pays. Mais je suis retournée en 2018 et 2022, 2023, depuis chaque année en Syrie pour pouvoir faire ce documentaire au long cours sur ce qu'est la communauté de Marmoussa et sa vocation au dialogue.
Donc c'est le besoin irrépressible de témoigner qui vous pousse à photographier,
oui.
Et à dire par la photographie ce que vous voyez, ce que votre œil voit.
Oui, c'est la volonté est effectivement de témoigner. La Syrie, je suis partie en Syrie dans une année très charnière pour la Syrie, 2011, c'est le début de la révolution, et va commencer la crise migratoire, la crise des Syriens, parce qu'il y a 6 millions de Syriens qui ont quand même quitté la Syrie pendant ces 12 ans, et 12 millions qui ont quitté leur maison. Donc un peu plus tard dans le temps, 2013, 2014, 2015 surtout, il y a eu le début de ce qu'on a appelé la crise migratoire dans les Balkans et j'ai voulu témoigner de ça aussi. Et j'ai accompagné un ami qui partait faire une étude sur les conditions de migration des Syriens. Je lui ai dit, prends-moi dans tes bagages et je ferai des photos pour ton rapport.
Donc là, ça se passe dans les Balkans.
Et ça se passe dans les Balkans. On est parti 3 semaines dans 5 camps de transit où j'ai pu documenter les conditions de ces migrants forcés, les trains, l'attente, les frontières qui se créaient ad hoc. J'ai voulu témoigner de ça. Et ensuite, donc, une des thématiques fortes de mon travail photographique, c'est l'exil et l'hospitalité. Parce que quand on voit cet exil-là, pour se soigner, il faut aller chercher à voir et à montrer des initiatives d'hospitalité aussi parce qu'elles existent.
Donc vous pourriez dire que face à ces désespoirs, ces vies brisées, vous allez chercher l'espérance du côté de l'hospitalité parce qu'il y a des gestes d'humanité qui sont exceptionnels comme les pendants de cette désespérance et de ces grandes souffrances, quoi.
Oui, surtout que l'hospitalité sacrée, je l'avais vécu en Syrie, à Marmoussa, je l'avais l'hospitalité inconditionnelle. Donc voir tous ces Syriens, premier pays de mission, pays de cœur, sur les routes, traités comme ils étaient traités, j'avais besoin d'aller le documenter. Et l'hospitalité, aller la chercher là où elle existe aussi. Je l'ai trouvée en France avec l'association Welcome de JRS. Je l'ai trouvée en Italie avec des associations qui essayaient d'accueillir les réfugiés.
Vous en êtes revenu abîmé ? Un peu quand même, parce que ça laisse forcément des traces de voir la très grande souffrance, les gens... sont comme ça déracinés.
Oui, c'est une douleur et en même temps, si je continue à documenter principalement depuis 15 ans derrière Marmoussa, c'est que je veux regarder tout cela par le prisme de l'espérance et la communauté de Marmoussa est un énorme îlot d'espérance au milieu de la Syrie, mais au milieu aussi des défis qu'on a en Europe, en France. Le message de la communauté de Marmoussa est à mon avis indispensable à entendre.
L'espérance, c'est voir un peu plus loin sur l'horizon.
C'est croire farouchement que c'est pas une question de nombre.
Qu'au-delà des barrières, il faut aller regarder un petit peu derrière.
Qu'en l'autre, découvrir l'autre, c'est se comprendre aussi un peu soi-même, qu'il ne faut surtout pas se retrancher dans ses propres peurs, que la rencontre change tout. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le pèlerinage islamo-chrétien aussi à Lourdes. Et je remercie vivement Lourdes d'avoir accueilli ce pèlerinage ces 3 jours à ici. On se rencontre entre gens, entre chrétiens et musulmans, entre gens de bonne volonté. Et c'est C'est une expérience, c'est un grand réconfort et une expérience d'espérance aussi très forte. On voit des gens curieux de comprendre, de découvrir la religion de l'autre, de faire en sorte qu'il y ait plus de rencontres. C'est très touchant.
Vous coordonnez des projets humanitaires. Forcément, lorsqu'on coordonne des projets humanitaires, on est plongé dans la souffrance des autres, dans quelque chose qui est parfois même difficile à accepter, qui peut révolter. Vous êtes rendu en Syrie, vous nous l'avez dit, vous avez été en Liban, en Irak, le Yémen, le Nigeria. Je les cite sans doute dans le désordre de la chronologie. Comment on se répare de tout ça? Parce que c'est un monde qui peut être désespérant lorsqu'on le regarde sous ce prisme de l'humanitaire qui vise à aider dans ces cadres de souffrance absolue.
Notamment aussi tout ce qui se passe depuis 2 ans en Palestine, quand on agit au Liban, qu'on y met beaucoup d'énergie et
tout est balayé.
Et qu'à 50 km de là, il peut se passer ce qui s'y passe. On a une sensation d'immense injustice, d'inégalité profonde. On se soigne par ce genre de rencontre.
Oui.
Par la prière, par le retour à Marmoussa, et on a la chance aussi, à travers les projets humanitaires, de côtoyer des gens qui sont extrêmement inspirants. Je travaille avec des gens qui sont, eux, à Raqqa, qui sont à Aden, qui sont à Kaboul, et qui ont des idées et de l'énergie pour mettre en place des projets. Je travaille avec des jeunes à Damas qui veulent relancer l'industrie du cinéma. Et on est en train de reconstruire une bibliothèque à Deraya. Delphine Minoui a écrit un livre qui s'appelle « Les passeurs de livres de Deraya », de jeunes qui avaient collecté tous les livres de Deraya sous les bombes pour faire une bibliothèque souterraine. On est en train d'essayer de lui redonner vie, d'y associer du cinéma. Et tous ces petits projets. Alors c'est parce que je fais de l'humanitaire dans deux structures, la Guilde et les Écrans de la Paix, qui sont à taille humaine et qui font des projets à taille humaine. Et on est au plus proche de nos partenaires de terrain, et on les rencontre et on voit leur énergie, et on arrive à faire des choses concrètes ensemble. Et ça change beaucoup de choses.
Oui, ça c'est gratifiant. Et vous dites que c'est ça qui vous donne plus que du baume au cœur, qui vous donne de l'énergie.
Oui,
de voir que
c'est peu, mais on
va pas... Il y a quelque chose de possible.
On ne va pas faire de révolution. La révolution, elle est intérieure. La première révolution, elle est intérieure. Et donc, on se concentre sur des actions très concrètes. Et quand on voit des visages d'enfants devant... Donc, les écrans de la paix font du cinéma dans les camps de réfugiés. Quand on voit les visages d'enfants émerveillés face à un écran géant, à Raqqa, qui découvrent des dessins animés qui ont une vie d'enfant pour un petit moment, c'est bon.
Ma dernière question, elle concerne la Vierge Marie. Vous êtes de passage à Lourdes.
Oui.
Et donc, ce pèlerinage islamo-chrétien se fait dans ce contexte marial. Qu'est-ce que vous diriez de la place de la Vierge Marie dans cet univers-là de dureté, parfois Vous-même, à titre personnel, vous aimez, vous ressourcez dans la dévotion mariale, peut-être?
Tout à fait, oui. À Lourdes, il se passe toujours quelque chose.
Vous y venez à d'autres occasions?
Oui, je viens aussi dans le cadre du pèlerinage pour la prévention du suicide, fondé par le père Eric Lestage et à travers l'association de la Lumière de Raphaël, qui a lieu depuis 3 ans, qui est un pèlerinage national et qui a lieu fin août. Et il s'y passe toujours des choses merveilleuses. Et moi, ce que je viens de vivre durant ces dernières 48 heures, c'est de voir Marie à travers les yeux des musulmans qui sont venus. Marie a une place très importante dans le Coran. Elle est mentionnée 30 fois. Elle est la mère de Jésus, Jésus est un prophète, donc elle a une place très, très importante, et ils ont un grand respect pour Marie. Et donc hier, on a fait la procession ensemble, et ils nous ont tous accompagnés, et ils ont témoigné ce matin de ce qu'ils ont vécu pendant cette procession, et c'était sublime de voir Marie à travers leurs yeux, et de voir cette procession à travers leur vécu. Ils ont été très touchés, et c'était très touchant.
Donc là aussi, la Vierge Marie qui œuvre là où, à Lourdes, mais ailleurs, pour ce dialogue entre musulmans et chrétiens.
Qui a sa place et qui est un thème, un des thèmes privilégiés quand on veut aller creuser sur le Coran, la Bible, les personnages qui nous réunissent. Et Marie nous réunit.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
On peut sans doute, sur les moteurs de recherche, en tapant Cécile Massy, trouver votre photographie, vos reportages.
Oui, IE à la fin, cécilemassy.com.
Oui. Vous
trouvez mon site
M-A-2-S-I-E. Voilà.
Sur Instagram également. Oui. Oui.
Et comme ça, peut-être que ceux qui nous ont écoutés, vus, pourront revivre un peu votre témoignage à travers ces photographies. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vous souhaite bon vent pour toutes ces aventures et toutes ces coordinations de projets humanitaires. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,
I'll...
Radio Présence Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les médecins invités à être les gardiens et serviteurs de la vie humaine, en particulier des plus vulnérables.